n'ai jamais joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule.
Bonjour à vous. Bienvenue dans ce 14e épisode de 15 bras, 15 jambes. Ensemble, nous allons revoir l'actualité du rugby à 15. Pour cet épisode, nous allons faire le bilan du Super 18 et des compétitions estivales. Et nous allons préparer le retour du top 14, Pro D2, etc. des championnats domestiques de l'hémisphère nord. Eh bien, on commence maintenant.
L'impact moral français est total. Les Blacks sont à genoux. Ils ont le moral sur les couilles. Ils n'en peuvent plus. Les Français sont transcendants.
Pour commencer cet épisode, nous allons donc faire un gros retour sur le Super 18, qui est la compétition de l'hémisphère sud. La compétition principale, c'est un peu notre Coupe d'Europe à nous. Mais c'est là, sauf que là, c'est beaucoup plus intercontinental. Et même si on ajoute maintenant l'Argentine et le Japon. Donc en fait, je vais commencer par vous faire le tri par conférence. Vous allez voir qu'il y en a 4 différentes qui regroupent chacune regroupe soit 5 ou 4 équipes. Donc pour la conférence australienne, nous avons donc en premier les Brumbies qui ont eu 34 points, la Western Force qui avait 26 points, les Reds 21 points, les Waratahs 19 points et les Rebels 19 points. À noter, je crois que c'est je ne sais plus quelle équipe va sauter, parce qu'il y a une équipe d'Australie qui va sauter pour le prochain Super 18, parce qu'ils veulent réduire le nombre d'équipes. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand je parlerai de des conférences sud-africaines. Après, nous avons la poule de la Nouvelle-Zélande. Donc, on avait les Crusaders premiers avec 63 points, les Hurricanes avec 58 points, les Chiefs 57 points, les Highlanders 51 points et les Blues 37 points. Alors en fait, si vous voulez, par ce système de poules là aussi, on voit que les poules là sont, ces deux là sont communicantes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est ces deux qui jouent l'une contre l'autre. Et on joue aussi contre les équipes de sa propre poule et on joue aussi un match contre les équipes de l'autre poule. Des fans de la poule maintenant sud-africaine, une des deux. Après, donc, du coup, pour la conférence 1, la poule 1 d'Afrique du Sud, nous avons les Stormers, 43 points, les Cheetahs, ça s'effondre assez rapidement, avec 21 points, les Bulls, 20 points, et les Sunwolves dans l'équipe japonaise avec 12 petits points. Pour la poule 2 de l'Afrique du Sud, on a par contre alors la grosse équipe qui fait peur depuis 3-4 saisons, fait plus de 3 saisons. Donc on a les Lions avec 65 points, ce qui est le meilleur total. D'ailleurs, on a les Sharks avec 42 points. L'équipe argentine des Jaguars, les Juarez, je ne sais pas comment le dire, au moins. Et derrière, après, on a les Southern Kings avec 28 points. Non, il faut noter que pour le prochain Super 18, on aura donc une équipe australienne qui saute pour l'instant. Alors, je ne sais pas s'il y en aura une autre qui va sauter en plus. C'est quand même fort probable, je crois. Mais par contre, on a déjà au moins deux équipes qui sautent pour l'Afrique du Sud. On a les Cheetahs, je crois, et les Southern Kings, d'ailleurs. Et en fait, ces équipes ne disparaîtront pas en tant que telles, ne seront pas reversées en Currie Cup. Donc le Currie Cup, c'est le championnat domestique sud-africain. En fait, ces deux équipes sont intégrées, je reviendrai un peu plus proprement tout à l'heure, mais sont reversées au Pro 14, donc qui est l'ancien Pro 12, aussi connu sous le nom de la Celtics League ou la Guinness Cup. En fait, c'est le championnat celte, donc il regroupe les équipes du Pays des Galles, Irlande et Écosse. Voilà. Donc on aura, et italienne aussi. Et donc on aura maintenant deux équipes sud-africaines là-dedans. On verra ce que ça fera dans les faits. Ça promet quand même énormément de frais de déplacement. Après, donc voici le classement final au niveau des points. Donc on a les Lions, 65 points. Donc les Crusaders de Nouvelle-Zélande, 63 points. Les Stormers, 43 points. Ah oui, parce que je crois qu'il y a un système de reversion qui est un petit peu différent selon les poules. En fait, c'est le premier de chaque poule est qualifié, et après ça va être les meilleurs seconds. Et après on a les Australia Brumbies, c'est pour ça en fait que les types sont qualifiés, parce qu'ils ont un score tout merdique. On a après, et du coup derrière, c'est les meilleurs seconds, Enfin, deuxième plutôt. Donc là, les Hurricanes 58 points, les Chiefs 57 points, les Islanders 51 points et une équipe sud-africaine, les Sharks, avec 42 points. Et après, bon bah. Après, c'est pas glorieux quand même. On sent quand même que là. Toutes les, déjà, tout, on, qu'est-ce qu'on peut noter déjà? On voit que toutes les équipes néo-zélandaises doivent être qualifiées, je crois, quasiment. Ah, sauf les Bulls, en fait. Les Blues, ils sont que 37 points. C'est l'équipe qui est reconnue comme l'équipe la plus. Je perds mes mots. Comme l'équipe la néo-zélandaise la plus mauvaise. Et on voit qu'ils ont déjà quasiment autant de points que la meilleure équipe. Plus de points que la meilleure équipe australienne. Comme quoi. Et la meilleure équipe aussi, on pourra noter que c'est les Lions qui avaient fait forte impression l'année dernière, qui avaient fini en finale. Donc, comme quart de finale, on a eu les Brumbies contre les Hurricanes. Alors les Brumbies ont perdu sur le score de 16 à 37, à 35. Pardon. Les Crusaders ont battu les Islanders sur un score un peu extraordinaire de 17 à 0. Il faut savoir qu'une équipe néo-zélandaise n'arrive pas à marquer un point. Les Lions ont eu quand même beaucoup de mal contre les Sharks sur le score de 23 à 21. Et Stormers, les Chiefs l'ont remporté à l'extérieur sur le score de 11 à 17. En demi-finale, on avait les Crusaders contre les Chiefs qui a accouché d'un 27 à 13. Et les Lions ont mis une quille aux Hurricanes sur le score de 44 à 29. Juste derrière ça, après, on a les. Et en finale, donc on avait les Lions contre les Crusaders, et les Lions ont perdu sur le score de 17 à 25, alors qu'ils étaient les grands favoris de la compétition et de ces phases finales. Ils avaient fait, je crois qu'ils avaient perdu quasiment, je crois, comme les Crusaders, je crois qu'ils avaient perdu aucun match, je crois, peut-être un à la rigueur. Et en fait, je pense qu'ils auraient pu gagner, mais ils ont pris un carton rouge. Sur une belle manchette, si ma mémoire est bonne. Et ça ne les a pas arrangés, surtout que les Crusaders sont quand même une assez bonne équipe en défense. Ça risquait d'être compliqué. Voilà. Bon, ben c'est tout pour ce Super 18. Ça avait l'air pas mal cette année. J'ai pas plus regardé que ça. Hein. Vous retrouverez le lien dans le document si vous voulez voir les autres scores, tout ça, comment ça s'est passé, parce que c'est un système un peu opaque. J'ai un peu du mal à comprendre leur système. Là, on joue contre les. On fait des matchs aller-retour contre les équipes de sa propre poule, et puis on joue que des matchs à l'extérieur. Mais je sais pas bien comment ça se passe, comment c'est calculé les matchs à l'extérieur, enfin les matchs contre les équipes des autres poules, s'ils reçoivent, s'ils reçoivent pas. J'ai un peu du mal. C'est un peu nébuleux. Tout ça pour dire que maintenant que c'est fini, on va passer au Rugby Championship. Le Rugby Championship. C'est le 6 nations du Sud, en mieux quand même, hein. Donc qui oppose l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. On pourrait s'attendre à. Il y a plus de journées que d'équipes. Hein. On a 6 journées, à plusieurs matchs aller-retour. Oui, je crois que c'est que les matchs aller-retour d'ailleurs. Je crois que c'est un match aller-retour. Donc pour la première journée, ça commence rapidement, ça commence déjà au moment où sortira cet épisode, ben ça commencera la semaine prochaine, donc le 19 août, on aura Australie-Nouvelle-Zélande au ANZ Stadium de Sydney, et après on aura la même journée Afrique du Sud-Argentine. Pour le 26 août, on aura Nouvelle-Zélande-Australie, donc on aura le match aller-retour, en fait c'est un match aller-retour directement je crois, non pas du tout. On est au Forces Bar Stadium de Dunedin. On aura donc Nouvelle-Zélande-Australie et Argentine-Afrique du Sud. Là, il n'y a pas de stade noté. Le 9 septembre, on est au Arioro Stadium de New Plymouth, pardon, en Nouvelle-Zélande. Et on a Nouvelle-Zélande-Argentine. Et l'Australie reçoit à Perth, au Perth Oval, reçoit l'Afrique du Sud. Le 16 septembre, pardon, à North Harbour Stadium à Auckland, la Nouvelle-Zélande reçoit l'Afrique du Sud et l'Australie reçoit à Canberra, au Canberra Stadium, l'Argentine. Un petit saut dans le temps, on passe à la cinquième journée avec le 30 septembre, Afrique du Sud, Australie, Argentine, Nouvelle-Zélande. Et pour finir, le 7 octobre, soit à peu près grosso modo un mois avant la tournée d'automne, donc je reparlerai. Dans un épisode qui viendra un petit peu plus tard, je pense, fin septembre, peut-être, début octobre. Là, peut-être j'attendrai la fin du Rugby Championship pour en parler de cette tournée d'automne. On aura donc Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et au stade de Saitama, Non, c'est au stade, un stade japonais, qui reçoit. L'année dernière, on avait eu droit à un match Afrique du Sud, je crois, Argentine, ou Afrique du Sud, Australie, si je ne me trompe pas. On avait eu droit à un match de rugby championship à Wembley. Pas Wembley, si, au stade de Wembley. L'année dernière, dans cette année, il délocalise au Japon, à Saitama. Voilà, donc Argentine, Australie. Là aussi, bah, c'est le grand barreau d'honneur des équipes du Sud. Moi, je trouve que c'est assez intéressant à regarder. C'est pas tout à fait le même type de jeu que dans le Nord. Mais on apprend pas mal de trucs, sachant que là, on risque quand même, je pense, d'être surpris, parce que les Lions marchent bien. L'équipe d'Afrique du Sud s'est bien rattrapée contre la France. Bon, la France n'a pas un gros gros niveau quand même, faut pas non plus, faut pas trop s'en cacher. Mais ils ont proposé un jeu qui était plus intéressant qu'à l'accoutumée pour l'Afrique du Sud, donc je pense que le niveau risque d'être relevé. À voir si l'Argentine aussi confirme un peu plus, je sais pas. Bon, moi je vois bien l'Australie un peu en dessous, et je crois que la Nouvelle-Zélande a quelques blessés, donc on verra bien quand on aura. Après, donc là, je vais vous parler des championnats un petit peu particuliers, des trucs que vous n'entendrez pas parler partout, comme d'habitude. Cette fois, je vais vous parler du World Rugby Nation Cup, dans 2017. En fait, c'est un championnat qui est découpé en trois poules, et l'équipe de, par exemple, l'équipe de la poule A rencontre les équipes de toutes les équipes de la poule B. Donc, ça fait trois matchs pour chaque équipe, et après, à la fin, on fait les totos et que le meilleur gagne. Donc pour la poule A, on avait l'Uruguay, on avait Argentina 15, donc l'Argentina 15 en fait c'est le pôle émergence, comment on appelle ça, c'est un peu le France A, sauf que maintenant, bon, France A n'existe plus maintenant, et maintenant c'est les Barbarians français tout simplement. Donc c'est ça, c'est un peu les équipes, il y a les Landes 15, il y a l'Australie 15 comme ça, il y a les... je crois aussi un peu que les... Comment ça s'appelle les Maoris All Blacks, c'est un peu le même principe, mais un peu plus concentré sur les joueurs de type d'origine maori quand même. Mais je crois que c'est un petit peu le même principe, donc c'est les joueurs en devenir qu'on fait une sorte d'incubateur. Et après, derrière, on avait la Namibie. Et après, pour la poule B, on avait la Russie, l'Espagne et l'Italie émergents. Alors, déjà, on peut dire que c'est l'Uruguay qui a gagné avec 3 matchs gagnés, tout simplement. Et 13 points pour la poule A. Voilà, donc après, on avait l'Argentine 15 qui a gagné 2 matchs et qui a donné 11 points. Et la Namibie a gagné un match pour 6 points. Pour la poule B, la Russie avait 12 points, mais que 2 matchs gagnés. C'est-à-dire qu'ils ont fait pas mal de bonus. C'est pas eux qui ont le meilleur goal average par contre, mais c'est pas mal. Et derrière, on avait l'Espagne qui a gagné un match et l'Italie émergente 0. Ça, c'est fait. Donc pour les goals average, on voit que c'est l'Argentine 15 les meilleurs. Je pense qu'ils ont dû perdre de peu contre l'Uruguay. Je pense que c'est ça qu'ils ont. Non, ils ont dû perdre. Non, même pas quand ils jouent contre une équipe, notre équipe. Ça doit être la Russie ou l'Espagne qui a dû battre l'Argentine. Je ne sais pas. C'est assez incroyable. Pour les goals, et le plus mauvais goal average, c'est l'Espagne. Avec. Ah oui, juste 34 points mis. Très peu quand même. Et 74 encaissés, ce qui fait moins 40. Donc normalement, l'Uruguay était qualifié déjà pour la Coupe du Monde, je crois, ou c'est encore en train de passer. Et après, on avait surtout des équipes qui peuvent se qualifier. On avait la Namibie, la Russie et l'Espagne. Après, on avait le World Rugby Pacific, donc la Pacific Nation Cup. C'est le championnat des... Alors ça dépend, je crois, selon les formules. C'est arrivé, alors, peut-être ça en a un autre, qui est les USA, les Canada et le Japon. Mais cette fois, c'était dans les nations du Pacifique au sens strict. Donc, on avait dans l'ordre d'arrivée les Fidji, les Tonga et les Samoa. Donc, deux matchs pour chaque équipe. Les Fidji ont gagné lors d'un match, ce qui leur fait un total de 9 points. Les Tonga ont gagné un match et les Samoa ont perdu tous leurs matchs. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? C'est très simple. Déjà, les Tonga, ils ont un goal average de 0. C'est clair, c'est net et c'est sans bavure. Donc, les Fidji étaient déjà, je crois, qualifiés pour la Coupe du Monde. Je ne sais plus par quel. Pourquoi d'ailleurs ils étaient qualifiés. Ou peut-être suffit de se qualifier là. Et après, donc, finalement, c'est les Tonga qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il reste encore une chance pour les Samoans de se qualifier. Ça s'est passé pas loin, si ma mémoire est bonne. Ça s'est joué à quelques. Les matchs, ça s'est joué à très peu de points à la fin. Mais on voit que les Samoans ont du mal. Moi, je les avais trouvés un peu moyennos à la Coupe du Monde. Ils avaient fait des bons matchs, mais sans forcément forcer. Donc moi je suis resté un peu je reste un peu sur ma faim dans cette équipe. Les Tonga ont bien confirmé aussi. C'est pourtant la moins bonne nation du Pacifique. Comme quoi, quand on veut, on peut. C'est quand même pas passé loin, mais à voir. Juste derrière, après, on avait le Rugby Africa Season. Il y a eu quelques surprises quand même, il y a eu quelques surprises. Donc la Namibie a gagné tous ses matchs, même s'ils en ont chié comme pas possible. Je crois contre le Zimbabwe, ils ont rattrapé quasiment 25 points. La Namibie a gagné. Donc c'est 5 matchs pour un goal average de plus 200. Derrière, après, on avait comme second, on avait le Kenya qui a gagné 3 matchs, tout comme l'Ouganda, ce qui leur donne 18 et 16 points. Là, on avait la Tunisie qui fait une bonne confirmation. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, je vous avais parlé du tri-nation du Maghreb. Donc, il y avait la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. La Tunisie a fait une belle fait de belles prestations. Le Zimbabwe, juste derrière. Alors, la Tunisie, c'est 9 points. Le Zimbabwe, c'est 6 points avec un match gagné. Et bon dernier, le Sénégal avec un seul petit point. A noter que c'est pas forcément le Sénégal qui a le plus mauvais score. Même si la Tunisie a gagné 2 matchs, mais ceux qui ont le pire goal average, moins 5,81 quand même. Ça, c'est impressionnant. Et bon, finalement, ça s'explique assez simplement parce que c'est pas la pire défense, le Sénégal, mais c'est la pire attaque, 75 points. Et la meilleure attaque, c'est la Namibie avec 272 points quand même pour seulement 64 encaissés. Et ils ont pris des bonus quasiment à chaque fois, sachant que la Tunisie n'a pas pris de bonus. Le Zimbabwe a pris des bonus. Donc voilà, ça fait plaisir de voir les petites équipes bouger, surtout que le Kenya, je vous le rappellerai, est pas mal. Alors chez les femmes, je ne peux pas vous le confirmer, parce que je n'ai pas les infos en tête, mais je sais que chez les hommes, le Kenya a 7, fait assez bonne impression. C'est une équipe qui progresse bien, plus que l'équipe de France par exemple. C'est une équipe qu'il faut surveiller, je pense. Bon, pour l'instant, ils sont un peu limite. Comme pas mal d'équipes, c'est difficile de trouver plus de 15 joueurs. Parce que bon, on joue à 15, mais il faut quand même compter des remplaçants, il faut compter que les remplaçants soient bons, etc. C'est quand même un pool de joueurs assez important pour rivaliser. Pour l'instant, ils sont quand même un petit peu limite. Je crois qu'ils étaient bons. Peut-être le Sénégal, il y a 20 ou 30 ans, je ne me rappelle plus, qui était bon. Qui était une équipe à surveiller. Ils avaient fait la Coupe du Monde de 1980. Eh bien écoutez, attendez, je vais. Il y en a un d'ailleurs qui a fini paralysé, si ma mémoire est bonne. En 87, c'est peut-être en 91. Il faut que je vous fasse un petit topo aussi sur les Coupes du Monde, il y a pas mal de choses à apprendre. Oui, en 87, il y avait eu le Zimbabwe. Voilà. Qui finalement a bien dégringolé. Bon, il y a pas mal d'équipes aussi qui ont un peu disparu des radars. Même si le rugby à 15, c'est quand même un pool d'équipes qui est quand même assez réduit. Faut pas non plus. Parce qu'en 91, déjà, c'était. Ah ben, il y a encore le Zimbabwe. Ben, je crois que c'est là qu'il y a un pauvre joueur qui avait fini. Quoique, je sais plus, qui avait fini paralysé. Bref, on fait bon. Vous voyez, après, du coup, c'est la Namibie qui a un peu pris le dessus. En même temps, ils ont des joueurs aussi qui sont d'origine sud-africaine. Et qui peuvent, je sais pas trop comment ils se débrouillent, mais ils font un peu passer les joueurs. Quoi. Enfin bon, voilà. Maintenant, alors je vais vous parler c'est très très simple. Oh ben cet épisode sera quand même relativement court, je pense. Je vais essayer de broder derrière, mais je pense qu'à un moment on va arriver à une rubrique, ça risque d'être un peu costaud. Je vais vous parler de la tournée d'été qui fait rêver tous les enfants, comme on dit. C'est la tournée des Lions britanniques et irlandais, donc les British and Irish Lions. Donc c'était pour la tournée en 2017 et c'était la tournée en Nouvelle-Zélande. Ça fait donc la prochaine fois, ça sera dans 4 ans, donc ça sera en 2021 et ça sera en Afrique du Sud normalement. Et après Australie, et etc. On fait le tour. Donc la tournée avait excessivement mal commencé. On va dire qu'ils jouaient avec les freins. Ou les doigts dans le cul, que vous préférez, vous dites ça comme vous voudrez. On avait commencé par Nouvelle-Zélande Province Barbarians, donc en fait c'était du niveau Pro D2 fédéral presque, c'était un peu les cadets. Bon, les gars venaient de descendre de l'avion hein, aussi, faut remettre ça dans la balance. Ce match il jouait au Okara Park à Whangarei, et les Lions se sont imposés sur le score de 13-7. Ça a été très pénible. Juste après, on a eu les Blues, dont les Blues, je vous rappelle, c'est l'équipe la plus mauvaise pour le Super 18 pour la Nouvelle-Zélande. Et on a eu une petite surprise, même si les Blues, ils ont, comment il s'appelle, Sonny Bill Williams quand même. C'est le seul bon joueur qu'ils vont avoir, nous devons en avoir d'autres, mais C'est pas très glorieux. Ils ont quand même battu les Lions britanniques sur le score de 22 à 16. Ça fait un peu tâche. Et c'était à l'Eden Park à Auckland. Juste après, on a eu les Crusaders contre les... Merci Tocheux, je te fais le topo. Après, derrière, on a eu les Crusaders qui ont affronté dans les Lions. Et là, on a eu un score de top 14. Donc, on a eu un bon vieux 13 à 12. On aurait dit un bon vieux Toulouse-Toulon. C'était moche, c'était nul à chier. C'était au Rugby League Park de Christchurch. Après, donc, je crois que c'est dans l'ordre en plus d'ailleurs, les Chiefs et les Hurricanes. Ouais, je crois que c'est dans l'ordre en plus de l'équipe de la pire à la mieux. Donc là, on a eu les Highlanders. Les Highlanders se sont imposés sur un score de 23 à 22. Et c'était au Forsyth Barr Stadium de Dunedin. Après, ils ont affronté les Maori All Blacks. Donc ce que je vous disais, c'était les All Blacks un peu panachés là. C'est l'incubateur, c'est pas forcément. Maintenant, ils s'en servent beaucoup plus d'incubateurs. Voilà, ils se déplacent pas mal maintenant avec les Maoris. Ils se déplaçaient déjà pas mal à une époque. Mais maintenant, ouais, c'est leur seconde équipe. Les Maoris ont perdu sur le score de 10 à 32. Et c'était au Rotorua International Stadium de Rotorua. Je sais pas où c'est, mais. Après, on a eu les Chiefs contre les Lions britanniques. Et là, on sent quand même que les Lions, ils ont un peu. Ils ont un peu poussé le truc, à force quand même, ils se sont imposés donc, contre les Chiefs sur le score de 16 à 34. C'était au Waikato Stadium à Hamilton. Après, bon voilà, on commence là le dur. Donc maintenant, on a eu Nouvelle-Zélande de Lions britannique. La score sans appel, 30 à 15, et c'était à l'Eden Park de Auckland. Juste après, dans la semaine, les Hurricanes ont affronté les Lions britanniques, qui avaient dû encore une fois dû mettre l'équipe B. Enfin, l'équipe B, j'aimerais bien l'avoir quand même, cette équipe B, mais bon, bref. Match nul, 31 à 31, et c'était à Wellington, au Wellington Regional Stadium à Wellington. Juste après le 1, la Nouvelle-Zélande a re-affronté les Lions britanniques. Alors là, il y a eu droit à une petite polémique, je crois. C'est un carton. Oui, le carton rouge de Sonny B. Williams, oui. Voilà, ça faisait 40 ans, je crois, que, ou 5, non, pas, quand même pas 50 ans, je sais plus, que la Nouvelle-Zélande n'avait pas subi un carton rouge lors d'un match international. Eh ben, c'est Sonny B. Williams qui nous a gratifié d'une magnifique cravate à l'épaule en plus. Tout ce qu'on aime. Après avoir tué son adversaire, il est sorti donc sur carton rouge. Et ce qui a permis au Lions britannique de l'emporter très péniblement quand même sur le score de 24 à 21. Et on était toujours au Wellington Regional Stadium à Wellington. Et pour la belle, eh ben, très beau match on a eu. On a eu Nouvelle-Zélande de Lions britannique et tout ça pour que ça accouche d'un 15-15. À l'Eden Park de Auckland. Donc les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Même que si on avait compté les points, c'était pas vraiment la parité. Enfin bref, c'était une victoire, un nul. Juste après, bon, mais comme chaque année, on a eu droit aussi au tournoi des moins de 20 masculins. Je sais pas si les filles en font un, par contre, je ne suis jamais renseigné. Cette année, ça se passait en Géorgie. Et voici le classement final. Donc premier, on avait la Nouvelle-Zélande avec 15 points, l'Angleterre 14 points, alors c'est 3 victoires pour ces deux équipes, l'Afrique du Sud avec 12 points et 2 victoires, parce que je ne sais plus comment c'était le système de poule, la France aussi a 2 victoires et 11 points, l'Australie 2 victoires, 10 points, l'Écosse 2 victoires, 9 points, Pays de Galles 1 victoire, 6 points, Italie 1 victoire, 6 points, Argentine 1 victoire, 6 points, Irlande 0 et 2 points, Samoa 1 point et Géorgie 0 point. Pour le goal average, on va à tout et à rien, donc on a déjà 130 pour la Nouvelle-Zélande et le score, le goal average le plus merdique, c'est ces pauvres Samoans avec moins 98, c'est beaucoup quand même, c'est déjà un petit peu moins que la Géorgie qui est à 89. Et après, on a des goal average un peu, la France plus 55, ça va. Quand on sait que l'équipe de France n'est pas très joueuse, je crois que l'équipe de France a fait une belle prestation sur cette Coupe du Monde. Et Dieu sait que des fois, chez les mecs, c'est un peu compliqué. Enfin, surtout, c'est les moins de 20. C'est un peu tout, c'est un peu rien. Alors, les deux demi-finales sont jouées le 13 juin. Et on a eu droit à une Angleterre-Afrique du Sud qui a accouché d'un petit score 24 à 22. Et derrière, on a eu la Nouvelle-Zélande contre la France 39 à 26. C'était quand même assez compliqué pour les Français. La Nouvelle-Zélande étant une équipe surtout chez les jeunes avec l'Angleterre qui est quand même hyper réputée. La France n'a pas pu faire le nécessaire pour gagner, mais quand même ça reste encourageant, même si quand même le différentiel de points reste quand même assez un petit peu costaud, quoi. Pour la troisième place, là par contre, c'est là un peu où on se prend les pieds dans le tapis. Donc ça s'est joué le 18 juin. Et c'est Afrique du Sud-France. Et ça a été sur le score de 37 à 15. Et là, la France s'est vraiment pris les pieds dans le tapis. Et pour la finale, ah ben je me suis trompé de couleur, mais c'est pas grave. Et ben ça a été score sans appel entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. On a eu droit à un 17 à 64. En finale. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Sentez que la Nouvelle-Zélande avait été piquée au vif l'année dernière. Ils avaient fait une très mauvaise prestation. Ça fait de même quelques années qu'ils n'enchaînaient pas, enfin les mauvaises prestations entre guillemets, hein, par rapport à leur niveau de vrai niveau de jeu. Sentez qu'ils avaient eu beaucoup de mal sur dans les équipes de jeunes. Ça faisait quelques années que c'était l'Angleterre qui gagnait. Et là, ils ont gagné avec la manière, sachant que l'année dernière, c'était les Anglais qui s'étaient imposés. Maintenant, eh ben on va faire un. On va passer un petit peu à autre chose, on va faire un petit break, et je vais vous parler des nouvelles règles qui rentrent en vigueur pour la saison 2017-2018. Voyou. Alors, comme certains doivent le savoir, le rugby, c'est tout simplement le sport incubateur par excellence, donc à chaque fois, on a des règles qui se mettent sur des règles, qui se mettent sur des règles, qui se mettent sur des règles, qui sont modifiées, qui dure que une ou deux saisons, c'est un merdier, pas possible, c'est assez impressionnant. Donc, on a eu donc, des changements pour la saison 2017. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, je suis allé chercher l'article, l'excellent article de l'esprit de la règle, qui sera dans le document annexe au podcast, et je vais vous faire un petit tri des modifications, des ajouts, et etc., quoi. Donc par exemple pour les mêlées, maintenant les mêlées simulées, alors par exemple, maintenant la nouvelle règle pour les mêlées simulées. Les mêlées simulées faisant suite à une suspension définitive, une suspension temporaire ou à une blessure doivent être jouées avec 8 joueurs de chaque équipe. Je vous lis après ce qu'ils mettent, parce que c'est quand même ça assez compliqué, donc je vous l'explique. L'objectif de cette règle est, selon World Rugby, de décourager les équipes à avoir recours à des mêlées simulées. Ceux qui suivaient le top 14 à l'époque d'Albi se rappelleront pourquoi. En effet, il pouvait être intéressant pour une équipe faible en mêlée de faire sortir ses joueurs de première ligne, quitte à évoluer en infériorité numérique et d'aligner moins de joueurs dans le pack, afin de ne pas trop fragiliser la ligne défensive. Désormais, il faudra bel et bien mobiliser 8 joueurs de part et d'autre. Donc je pense qu'il faudra intercaler un centre ou que sais-je d'ailleurs, parce que maintenant les ailiers, de toute façon, ils sont gaulés comme des maisons, alors... Ça n'a pas changé grand-chose. Donc oui, à une époque, c'était on faisait sortir les pilons, les blessés. Surtout à l'époque d'Albi, les règles avaient été changées après. C'était la grande mode. Quand Paris était venu à Albi, ils avaient fait le coup. Donc ils avaient préféré simuler les mêlées pour pas se faire pénaliser à un veux-tu, un voilà. Alors, durée de la partie. Si une pénalité est bottée en touche après la durée fixée, après que la durée fixée a expiré sans toucher un autre joueur, l'arbitre permettra que soit effectuée la remise en jeu et le jeu se poursuivra jusqu'à ce que le ballon soit mort. En fait, si vous voulez, il y avait une certaine incohérence au niveau des règles qui faisait que lorsque le temps était écoulé, par exemple, je siffle une pénalité à la 80 minutes et une seconde à peu près, voilà, après la fin du temps réglementaire. En fait, cette pénalité ne pouvait donner lieu qu'à une mêlée ou à une remise en jeu à la main, ce qui est maintenant assez rarement joué. C'est souvent mêlée ou... voilà. Mais bon, quand on arrivait dans ce cas de figure, on pouvait prendre que souvent que la mêlée, voilà, ou la remise en jeu à main. On n'avait pas la possibilité de prendre ce qu'on appelle donc une pénale touche, donc à savoir, quand on est pénalisé, quand on prend une touche, c'est nous qu'on récupère le ballon. On ne pouvait pas le jouer parce qu'on considérait que c'était le ballon sortait, ballon mort, et le match s'arrêtait là. Mais là, ils sont revenus sur cette règle-là. D'ailleurs, je l'ai vu, j'ai regardé le premier match de l'équipe de France féminine contre le Japon, et du coup, j'ai vu l'application de cette nouvelle règle. J'ai vu, après, à la fin du temps imparti, les joueuses japonaises ont joué en touche, ont tapé en touche, et ont récupéré le ballon derrière. Je trouve que c'est quand même vachement plus cohérent, que ça limitait quand même pas mal le jeu, et je trouve que ça permettra de un petit peu mieux jouer. Quoi. Eux, ils mettaient quoi d'ailleurs? La règle souffrait jusqu'alors d'une certaine forme d'incohérence. Il était possible consécutivement à une mêlée sifflée après la fin du temps réglementaire de demander la formation d'une mêlée ordonnée, mais pas celle d'un alignement. Donc l'alignement, c'est une touche. Ce point de règlement avait déjà fait polémique il y a quelques saisons, et une clarification avait été apportée par World Rugby. stipulant que pour qu'une pénale touche soit disputée, il faudrait que le coup de pied soit donné avant la fin du temps réglementaire. Dorénavant, les équipes à la peine et sanctionnées en fin de match ne bénéficieront plus de cette immunité. Je trouve ça pas plus mal. Maintenant, on a eu des changements sur la règle de l'avantage. Lorsque l'avantage est joué à la suite de multiples infractions commises par la même équipe, l'arbitre peut autoriser le capitaine de l'équipe adverse à choisir la marque de la pénalité qui procure le meilleur avantage. Il ne s'agit là que de coucher noir sur blanc, ce qui est déjà fait en pratique, et rien de bien nouveau par conséquent. Maintenant, on pourra choisir la marque de la pénalité qui convient le mieux. Établissement du score essai de pénalité. Changement, donc le coup de pied de transformation ne sera plus tenté. Valeur 7 points. Maintenant, en fait, si vous vouliez, quand on avait un essai de pénalité, donc à savoir mêlée enfoncée sur la ligne, etc., erreur du dernier défenseur, souvent sur carton rouge, du coup, c'est un peu la... Pour vous schématiser le truc, c'est l'équipe qui fait des fautes juste devant la ligne, ou la manchette, hein. Allez hop, je te découpe à la tête, qui voit un carton rouge. Avant, l'arbitre allait généralement sous les poteaux, pour signifier essai de pénalité, et qui ne valait que 5 points, et derrière, un des joueurs devait transformer le STC, généralement, face au poteau, à part de faire une blague à la Cédric Rosalène, ou de s'appeler, Jean-Marc Doussain, généralement, c'était 2 points. Le problème était, je pense, qu'il fallait un peu... En revanche, l'objectif est clairement d'augmenter le temps effectif de jeu, voilà. C'est d'éviter d'avoir à perdre du temps pour pas grand-chose. Alors que dans 95% des cas, même plus, c'était réussi, quoi. Ce genre de transformation. Juste derrière. Alors maintenant, c'est un changement sur la règle du plaquage. Le plaqueur doit se remettre sur ses pieds avant de jouer le ballon et ne peut ensuite jouer ce ballon que de son côté de la porte du plaquage. Alors c'est un petit peu compliqué. Cette modification de la règle va typiquement dans le sens de l'équipe qui produit du jeu. En effet, le plaqueur pouvait auparavant se relever du côté adverse et récupérer le ballon, à condition qu'aucun ruck ne se soit formé. Donc un ruck, c'est-à-dire, même si les règles ont changé, on va en parler juste après, je le vois. C'est quand faut qu'il y ait 3 joueurs au minimum, je crois, un joueur de l'équipe adverse et 2 joueurs de l'équipe attaquante. Et c'est là qu'ils forment un ruck, en fait, c'est quand il faut le pont au-dessus du joueur plaqué pour récupérer le ballon, grosso modo. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un petit changement sur cette règle. Donc, désormais, ce joueur devra, comme tous ses coéquipiers, faire le tour, ce qui va nettement compliquer la récupération du ballon. Parce qu'avant, on pouvait traîner un peu dans le camp adverse après le plaquage. En se relevant, on pouvait mettre les mains sur le ballon, enfin on pouvait un peu gruger, quoi. Après, maintenant, dans la mêlée spontanée, le ruck, modification, un ruck commence quand au moins un joueur est sur ses pieds au-dessus du ballon qui est au sol. Donc vous voyez, par exemple, mon joueur se fait plaquer, un joueur s'en va, par exemple, je vous explique pourquoi je dis qu'il y a un joueur qui s'en va, hop, le joueur plaqué, par exemple, qui est au sol, par exemple, joueur plaqué, plaqueur, c'est un peu compliqué quand même, c'est ça. C'est à ce moment-là que se crée la ligne d'hors-jeu. Un joueur sur ses pieds peut utiliser ses mains pour ramasser le ballon tant que cette action est immédiate. Dès qu'un adversaire arrive, il est interdit de se servir de ses mains pour jouer le ballon. En fait, donc, alors c'est un ruck commence quand au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus du ballon qui est au sol, le joueur plaqué et le plaqueur. En fait, c'est maintenant le ruck, en fait, maintenant suffit d'un seul joueur, c'est ce qu'ils mettent. Voici sans doute l'amendement le plus déroutant de cette réforme festival, bien qu'il fût également l'un des plus attendus. Cette règle avait déjà été expérimentée en France lors de rencontres Interpol il y a 2 ans et réapparue à l'ordre du jour après le coup joué par les Italiens aux Anglais. Je vous rappelle, c'est ce que je vous parlais des rucks fantômes, en fait. Comme ils ne mettaient pas de joueurs en opposition sur le ruck, en fait, il n'y avait pas de ligne de hors-jeu. Du coup, les joueurs pouvaient aller au-delà du ruck pour gêner la transmission du ballon, en fait. Ils pouvaient pas, c'est du rugby aussi, c'est quand même un peu extraordinaire. En fait, ils devaient attendre que un autre joueur en face, et ils pouvaient pas intercepter le ballon, je crois, parce que sinon ils étaient quand même signifiés hors-jeu, je crois. Je suis pas sûr à 100% de ça, par contre. Mais du coup, ils pouvaient aller traîner dans le camp adverse pour aller gêner le porteur du ballon ou le futur porteur du ballon. Finalement, le ruck ne nécessitera plus au moins 2 joueurs, un de chaque équipe, donc c'est ce que je dis, mais seulement un, puisque le premier soutien offensif ou défensif qui pénétrera dans la zone de plaquage formera le ruck. Donc en fait, c'est ce que je dis, quand un défenseur voudra aller chercher le ballon, il suffit que, par exemple, je plaque un joueur, le plaqueur s'en va, donc j'ai mon joueur au sol, parce qu'une fois qu'on est plaqué, normalement on doit aller au sol avec le ballon, et bien le premier attaquant, ou la première personne qui arrivera, donc par exemple moi si je suis l'attaquant, si t'es mon coéquipier qui avait le ballon, si je mets les mains sur le ballon, il y a ruck. Si un autre joueur vient pour aller chercher le ballon, aussi, ce qui est le coup le cas, ce qui était le cas dans l'ancienne règle. Si je viens chercher le ballon, du coup il y a ruck forcément. Mais voilà, surtout ce qui change, c'est que dès qu'il y a un moment, un ruck composé que par une seule équipe, parce qu'avant il fallait au moins deux joueurs, il fallait un joueur à chaque équipe quasiment, ben maintenant il y a ruck. Donc, et ruck, donc surtout ligne de hors-jeu. Donc on arrêtera d'avoir ces défenses fantômes qui sont un peu bizarres. Après, un joueur ne doit pas botter le ballon hors d'un ruck. Encore une fois, une règle qui protège l'équipe en possession du ballon, mais aussi l'intégrité physique des joueurs au sol. On voyait régulièrement des défenseurs enjamber un amas de joueurs au sol pour botter le ballon et pourrir la sortie, ce qui occasionnait parfois des blessures, notamment au niveau du visage. En revanche, le rucking reste toléré, c'est-à-dire l'action de talonner le ballon au pied, évidemment pour tenter d'en regagner la possession. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas le droit d'aller au-delà du ballon et taper dedans. On peut faire du rucking, donc c'est-à-dire le renvoyer vers l'arrière quasiment pour regagner la possession. C'est pour ça, du coup, talonner, c'est quand même dans son camp. On ne botte pas à l'avant, quoi. La marque ou arrêt de voler. Pour effectuer un marque arrêt de voler, un joueur doit avoir un ou deux pieds sur ou derrière sa propre ligne des 22, attraper un ballon qui a atteint le plan de la ligne des 22. Auparavant, il n'était pas nécessaire que le ballon ait franchi la ligne verticale si le joueur se situait, lui, dans les 22. En fait, si vous voulez, maintenant, il faut que le ballon ait choisi. Ben voilà, et tout simplement, franchi la ligne des 22. Par exemple, si j'attrapais, allez, on va dire que je suis sur la ligne des 22, je saute en arrière pour attraper un ballon qui est juste avant les 22, je reculais et c'était bon. Maintenant, il faut que le ballon ait franchi au moins cette ligne. Et c'est pareil du coup pour la touche. Un joueur qui tente de contrôler le ballon est considéré comme en possession du ballon. Cela vaut principalement pour les joueurs qui jonglent avec le ballon. Il n'est pas nécessaire qu'il soit en contact direct avec celui-ci lors de son passage en touche pour que le juge de ligne ait à lever son drapeau. World Rugby indique qu'il s'agit d'ajouter au règlement ce qui est déjà considéré dans la pratique, mais cela va malgré tout faire évoluer l'application du règlement dans certaines situations. Notamment celle-ci, l'arbitre avait justement accordé une mêlée pour les Noirs à l'endroit de l'en avant, mais avec les nouvelles règles, les Bleus auraient bénéficié du lancer en touche au niveau du coup de pied. C'est quand même assez compliqué, je vous laisserai relire, parce que c'est touffu les nouvelles règles. Il y a eu pas mal de changements cette année. Alors visiblement quelqu'un me dit, alors c'est mon ami Toucheux, il me dit que les règles c'est très compliqué. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est quand même excessivement compliqué. Il y a presque des contresens même des fois. Ça c'est foufou quoi. Par exemple, c'est hyper compliqué. Si le joueur saute de l'intérieur de l'aire de jeu et dévie le ballon en arrière vers l'aire de jeu, il ne peut pas le dévier vers l'avant forcément sinon ça fait en avant. Donc à partir du moment, c'est clair, il est obligé de le dévier vers l'arrière. Ou si ce joueur se saisit du ballon et le lance en arrière vers l'aire de jeu, avant de retomber en touche ou en touche de but, le jeu continue même si le ballon a atteint la ligne de touche. Cet amendement devrait passer inaperçu car de nombreux amateurs et même professionnels pensaient qu'il s'agissait déjà de la règle en vigueur. Nous avions écrit un article là-dessus, je vous laisse lire l'article pour mieux comprendre la règle. Toujours est-il que ce changement de règle sera bénéfique de la continuité du jeu et favorisera, à n'en pas douter, le spectacle à certains sauvetages de touche méritant en effet d'être récompensés. Donc maintenant, en fait, un joueur en touche pourra, même si c'était quand même assez compliqué, donc un joueur qui sera en touche ou pas, hein, vous voyez que c'est un peu compliqué au niveau de quelques petites nuances, pourra sauver un ballon, quoi. Par contre, ajout, si le porteur du ballon atteint le plan de la ligne de touche, mais renvoie le ballon dans l'air de jeu sans avoir atterri en touche, le jeu continue. Voilà, donc c'est ça. On peut sauver le ballon, rien de nouveau en pratique, puisque ce point de règlement est parfaitement adéquat avec les définitions déjà en vigueur, sans doute a-t-il été ajouté pour davantage de clarté. Donc, eh ben, si le ballon atteint la ligne de touche, le plan, donc vous tracez une droite, un mur là, au niveau de la ligne de touche, si le ballon y passe dessus, que je le volaye, par exemple, vers l'arrière, c'est bon. Le jeu est sauvé. Par contre, derrière, c'est là qui... Alors là, c'est pareil, c'est excessivement compliqué. Alors c'est le ballon est en touche si un joueur réceptionne le ballon et que ce joueur met un pied sur la ligne de touche ou au sol au-delà de cette ligne. Dans ce cas, si le ballon a franchi le plan de la ligne de touche lorsqu'il est attrapé, le réceptionnaire n'est pas considéré avoir mis le ballon en touche. Si le ballon n'a pas franchi le plan de la ligne de touche lorsqu'il est attrapé, ou ramasser, le réceptionnaire est considéré avoir mis le ballon en touche, que le ballon ait été en mouvement ou stationnaire. Toujours dans l'optique d'encourager le spectacle et donc d'augmenter le temps effectif de jeu, cet amendement dissuadera désormais les joueurs à cheval sur la ligne de touche de se saisir du ballon. Vous voyez, c'était souvent ça le but du jeu avant. C'est ça, c'est simple à schématiser. Si vous voulez, je vois le ballon qui arrive. Par exemple, le joueur botte en touche, comme on fait souvent, on appelle le rugby ping-pong, le joueur botte en touche. Enfin, botte pour faire reculer l'équipe, il dévisse un peu son tir. Je mets mon pied en touche, et au moment de me saisir du ballon, on avait généralement touche. Et le ballon était considéré comme être sorti de la ligne de, comme était considéré comme sorti du jeu. Donc, s'il n'y avait pas eu rebond, enfin, ça dépend de l'endroit dans lequel on se situe sur le terrain au niveau du coup de pied. Généralement, pour ce type de jeu-là, c'est le jeu où il faut avoir un minimum un rebond pour que le coup de pied soit considéré comme sorti et pas qu'il y ait, pour pas qu'on joue une mêlée au niveau du coup de pied. Oui, c'est compliqué quand même le rugby. Donc, en fait, c'est ça. C'était le joueur, ça saisissait du ballon sans qu'il y ait un rebond, et donc on considérait que le ballon était sorti direct de touche. Du coup, on jouait à une mêlée au niveau du coup de pied. Et vous voyez, il y a quand même des je vous laisse relire parce que c'est un peu compliqué. Alors, du coup, on va passer un petit peu plus loin, ça sera un peu plus simple, on est bientôt fini. Par exemple, maintenant, il y a des modifications sur les mêlées ordonnées. Maintenant, il n'y a plus aucun signal de l'arbitre au niveau du demi de mêlée. Après le oui, 9, c'est le commandement non verbal qui passe à son tour à la trappe. Désormais, le demi de mêlée introduira le ballon de son chef. World Rugby précise, la mêlée ordonnée doit être stable et l'introduction doit être effectuée sans délai une fois que le ballon a été présenté à la mêlée. Là, derrière, après, on a l'introduction du ballon par le demi de mêlée doit être droite, mais le demi de mêlée peut avoir une épaule au niveau de la ligne médiane, ce qui signifie par conséquent qu'il peut se tenir avec une largeur d'épaule de son côté de la mêlée. En fait, il n'est pas obligé d'être très droit. C'est ça. C'est un peu de la supercherie. Alors que certains amateurs s'arrachaient régulièrement les cheveux devant les introductions de moins en moins droites et espéraient que les arbitres fassent de nouveau respecter l'équité dans la lutte pour le ballon à mêlée, l'instance suprême a décidé de ne pas donner de consignes et au contraire d'assouplir la règle, l'objectif étant probablement d'encourager la mêlée à devenir une rampe de lancement et non une phase de combat. Hashtag l'équipe de France est dans la merde. Une fois que le ballon touche le sol dans le tunnel, n'importe quel joueur de la première ligne peut utiliser le un pied pour essayer de gagner la possession du ballon. Un joueur de l'équipe qui introduit doit talonner le ballon. Rien de neuf dans la première partie de ce paragraphe, puisque les piliers avaient déjà le droit de talonner le ballon, à condition que celui-ci soit correctement rentré dans le tunnel. En revanche, le gain du ballon à mêlée devra, semble-t-il, se faire obligatoirement au talonnage. On n'aura plus le droit de gruger comme on faisait si bien avant. Une bonne vie enculerie, comme dirait l'autre. C'est ça qui est magnifique avec le rugby. Après, maintenant, on a une exception. Maintenant, exception autorisée. Le numéro 8 a ramassé le ballon dans les pieds des joueurs de la deuxième ligne. Donc, le troisième ligne centre devait auparavant attendre que le ballon lui arrive dans les pieds par talonnage ou par poussée pour se délier sans saisir. S'il l'attrapait alors que celui-ci était au cœur de la mêlée, il était passible d'une pénalité. Ça arrivait souvent quand les mêlées étaient un peu chahutées, que le type il essaie d'attraper le ballon pour essayer de faire redescendre la pression pour si ça passe. Désormais, si son équipe ne parvient pas à prendre le dessus et dominer, il aura l'autorisation de se servir de ses bras pour extraire le ballon et mettre fin au combat. Cet amendement va, là encore, vise à faire de la mêlée une simple rampe de lancement. Et l'on n'entendra bientôt plus autour des stands nos scrums, nos wins. Voilà. Parce que maintenant, il va falloir être carré. Donc, je vous ai parlé des règles. Là, voilà. Vous voyez, c'est compliqué. On y a passé. Ben, j'ai quasiment passé plus de temps que pour le reste de l'épisode. À croire que ouais, le rugby, c'est compliqué. Ouais, maintenant, on va passer du coup. On va passer au championnat domestique. Et bon, on y va.
Destroyer, ça veut dire ratatiner, ça veut dire réduire à néant l'adversaire, ça veut dire le terrasser, si on essaye de parler français, ça veut dire l'anéantir, quoi, et tout ça, en termes toulonnais, c'est destroyer.
Alors, pour les championnats domestiques, on va commencer par les championnats français, ne nous embêtons pas. Alors, pour le top 14, cette année, on aura l'Union Bordeaux-Bègles, le CA Brive, le Castres Olympique, l'ASM Clermont, Montpellier HR, l'US Oyonnax, Lyon, le Loup, l'Olympique Universitaire, le Racing 92 qui ouvrira son nouveau stade, le Stade Français, la section paloise, Agen, le SU Agen, le Stade Rochelet, le RCT, donc Toulon, et le Stade Toulousain. Alors cette année, Google il a pas tout noté, et j'ai pas noté les dates des. Alors cette année, quand est-ce que se jouera la finale? Je sais pas. Ils ont pas mis les dates, c'est Google. Alors cette année, ah si, j'ai trouvé les dates. Donc cette année, il y aura des, bon, comme d'habitude, des barrages. Et ça se jouera, les demi-finales se joueront à Lyon, au Parc OL. Et ça sera, ça, la date n'est pas déterminée. Par contre, la finale, elle se jouera le 2 juin 2018 au Stade de France, comme chaque année. Et après, donc, on aura un match d'accession aussi. Donc ça sera le finaliste perdant de la Pro D2 qui jouera contre le 13e. Oui, que c'est ça, contre le 13e du top 14, pour savoir qui monte, qui descend. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc la saison va bientôt commencer. Normalement, vous avez encore une petite semaine de tranquillité quand sortira cet épisode, si je me démerde bien. Et là, cette année, je sais pas si ça va être régulier, parce qu'on a vu déjà Agen quand ils sont montés, c'était pas top. Pareil, Oyonnax a eu du mal à monter, on verra. Par recrutement, je sais qui a bien recruté. Mordoblègue, ils ont été tranquilles. Briva, ça va, c'est tranquille. Castres a chopé quelques bons joueurs. Clermont a pas mal recruté. Le Loup a très bien recruté. Montpellier, on verra parce qu'ils ont cherché d'entraîneur. Maintenant, ils passent avec Vern Cotter. Oyonnax, c'est pareil, on verra. Le Stade Français, c'est pareil. Il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. Il y a eu changement de président. Il y a eu quelques recrutements. Ils ont perdu pas mal de joueurs parce qu'ils avaient quand même mal mené leur barque. Du coup, certains anciens ont préféré prendre les voiles, comme Rabah Sidimani par exemple, qui est parti à Clermont. La section aussi, il y a eu quelques recrutements. Le Racing, je crois qu'ils sont restés plutôt tranquilles. Stade Rochelais a bien recruté déjà aussi. Toulon, bon, comme chaque année, il y a eu la moitié du changement. Il y a eu changement de staff aussi. Il y a eu l'arrivée de Fabien Galthié qui vient avec Landreau, qui vient avec Magny Edmonds aussi, je crois que c'est ça. Et le Stade Toulousain aussi, on verra ce que ça va créer parce qu'il y a eu pas mal de départs, il y a pas mal de départs forcés, de départs à la retraite. Par exemple, du Sautoir, Cinsus Johnstone, Patricio Albacete, qui étaient, entre guillemets, des gros salaires, donc maintenant, ils peuvent recruter, hein. On verra, enfin, on se trouve toujours des excuses de ça qu'au Stade Toulousain, de toute façon, donc on verra comment ça se passe. Après, on va passer à la Pro D2, la Pro D2. Alors pour la Pro D2, j'ai, c'est très simple, j'ai l'Aviron Bayonnais, Soyaux, Angoulême 15, Charente, pardon, le Stade Aurillacois, Cantal, Auvergne, l'AS Béziers, Hérault, le Biarritz Olympique Pays-Bas, SCA, pardon, l'US Carcassonne, le Colomiers Rugby, l'US Dax, le FC Grenoble, le Stade Montois, l'US Montauban, le RC Narbonne Méditerranée, le RC Vannes, le RC Massy Essonne et l'USO Nevers. Donc les deux équipes qui sont montées, donc c'est Massy qui est montée directement. Nevers qui a dû passer par des matchs éliminatoires pour monter. Qu'est-ce qu'on pourra noter là-dessus? Alors que du coup cette année, bon, forcément la formule change. Il y a au minimum une équipe qui va monter. Je crois qu'elle. Ouais, c'est ça. Alors, donc voilà. Donc les équipes 1 et 2 seront qualifiées directement pour les phases finales. C'est comme le top 14 en fait. Et les 4 équipes qui suivent, donc 3, 4, 5, 6, joueront des barrages. Et les barrages. Et j'ai pas les dates. Des finales et tout est quanti. Je vais voir si je vois les dates hein. Pour vous. Les dates, ouais, en fait, je crois que j'ai internet qui fait grève un peu. Bon, la finale, ça doit être par là hein. De toute façon, parce qu'après, il faut qu'il joue le. Je sais qu'il est assez. Je sais que le match d'accession là, il est assez rapidement joué. Donc, bon, là. Après, juste derrière, on a dans la Fédérale 1 Elite, donc c'est les équipes qui ont assez de pognon. Pour pouvoir monter en Pro D2, bon ben c'est ça, c'est assez simple. On a le SCA, donc le SC Albi, qui a fini 15e de Pro D2. Derrière, on a Aubenas, on a l'US Bressane, donc Bourg-en-Bresse, on a le CS Bourgoin-Jallieu, donc de Bourgoin-Jallieu, on a le SO Chambéry, on a Limoges Rugby, le Stade Rouennais. Rugby, Provence Rugby, RC Strasbourg, qui a une bonne équipe, je trouve. Tarbes Pyrénées Rugby et Valence Romain Drôme Rugby. Oui, c'est une poule assez finie, ça s'est réduit. Donc on verra ce que ça donne aussi dans les faits. C'est toujours un peu compliqué. Non, maintenant on va passer aussi au gros un peu plus gros. Donc le Pro 14, c'est très simple, donc on passe de 12 à 14. On rajoute deux équipes sud-africaines. Donc on a toujours les Benetton Trévise avec Kieran Crowley, Et c'est au stade communal di Mongio. D'ailleurs, on a les Cardiff Blues avec Danny Wilson comme entraîneur. Et c'est au BT Sport Cardiff Arms Park. Donc on a les Cheetahs, l'équipe sud-africaine qui est entraînée par Franco Smith. Et c'est au Free State Stadium. On a le Connacht Rugby avec Kerrion Kidd. Et c'est au Galway Sport Ground, les Dragons. Qui sont entraînés par Bernard Jackman. Bernard Jackman, si ma mémoire est bonne, c'était l'ancien entraîneur de Grenoble. Parce que oui, comme ils sont descendus en Pro D2, comme d'habitude, on fout tout le monde dehors. Hein. Sinon, c'est pas drôle, hein, même si on n'aura pas de budget, on sait que voilà, il ne se passera pas un miracle. Yorland, Grenoble. Oui, c'est ça, c'est les Newport Giant Dragons, c'est pour ça ouais, que j'avais du mal. Non, oui, c'est ça. Non, je ne me trompe pas. Après, donc j'en étais aux Dragons. Voilà, donc après, on a Edinburgh avec Richard Cockerill. C'était l'entraîneur de Toulon. Oui, c'est ça. Oui, il y a tellement de turnover en top 14 à force qu'on s'est tous condamnés à copier. Je vous fais ça devant vos yeux ébahis. Oui, c'est ça, Toulon. Mais il y a Edinburgh Rugby, c'est ça. Et c'est au New Mirthright. Je sais pas le dire. D'ailleurs, après, on a les Glasgow Warriors avec Dave Rennie. C'est au Scotstoun Stadium. Là, après, on a le Leinster, entraîné par Leo Cullen. Il joue soit au RDS Arena, soit à la Viva Stadium. Le Munster avec Razi Erasmus. Erasmus, oui, c'est un entraîneur sud-africain, je crois. Au Tomon Park. Les Ospreys, entraînés par Steve Tandy au Liberty Stadium. Les Scarlett, entraîné par Wayne Pivac au Parc E-Scarlett. Donc les Southern Kings, entraîné par Deon Davids, ça c'est l'équipe donc, d'Afrique du Sud, et ils jouent eux au Nelson Mandela Bay Stadium. Ulster, entraîné par Licky, mon entraîneur, au Kingspan Stadium. Et donc la dernière équipe, l'équipe italienne, les Zèbres, entraînée par Michael Bradley, au Stadio Sergio Lanfranchi. Donc voilà, bon ben c'est tout pour cet épisode. C'est un épisode tranquillou, hein, on va se cacher. Ah, visiblement, j'ai dit, t'as qu'à aller tout coucher aussi. Non, tu veux me dire ça. Bon, enfin bref, mon petit toucheux. Oui, parce que cet épisode était indirect, hein, donc voilà, on va pas faire des enregistrements comme ça, ninja. Après, bon, je vous ai pas parlé de la première chip. Je crois qu'il n'y a pas eu de gros changements là-dessus. Je sais pas s'il y a une équipe qui monte ou pas. La première. Je crois que les London... Non, c'était pas les London Irish qui descendaient. Ah oui, mais la première ligue, ouais, mais je veux la première ship, moi. Ah là 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 là. Bon, en fait, ah si, c'est là. Championnat d'Angleterre pour la saison 2016-2017. Donc, la Viva première ship. Et on aura, là, du coup, bah, je vous fais vite fait, hein. Bass Rugby, Exeter Chiefs, Gloucesters, les Harlequins, les Leicester Tigers, les London Irish, les New Falcon, les Newcastle, pardon, Newcastle Falcon, Northampton Saints, Sail Shark, Saracens, Wasps et Worcester Warrior. Je crois qu'il n'y a pas eu de relégué cette saison-là, je crois. Parce que... Ah si, il y avait Bristol, et c'est qui est monté alors? C'est qui est monté? Promu, ah ben c'est ça, voilà, c'est London Irish qui ont été promus, voilà. Que je me disais. Bon, je pense qu'on va, bon, on va pouvoir en rester là, hein, tranquillou. Donc, je ferai un épisode spécial. Non, série plutôt, voilà. Ça fait des années que je dis que je vais faire un épisode un peu spécial, mais ça, j'ai toujours pas eu le temps. Pas eu la bonne idée encore. Pour vous présenter des trucs un peu annexes au rugby, sur son histoire, tout ça, etc. Mais là, ça serait un hors-série consacré donc, à la Coupe du Monde de rugby féminin qui a lieu en ce moment même. On a déjà eu France-Japon, par exemple. On a déjà les premières journées de jeu. La première journée de jeu, pardon. Et j'en profiterai aussi à ce moment-là pour vous faire un petit topo sur le rugby à 7 féminin que je voulais faire dans cet épisode, mais je me suis dit, bon, quitte à faire un truc, autant faire un truc totalement consacré au rugby féminin, ce sera mieux. Quoi. Après, pour la suite du championnat, bon, ben, je vous ferai la suite, hein, vous inquiétez pas, normalement, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de modification. Je reviendrai un petit peu plus tard, je pense que j'attendrai fin du rugby championship pour revenir vers vous, pour vous amener des informations truculentes. Peut-être avant, je verrai, je sais pas. Parce que ça risque pas mal de faire pas mal de journées, parce que ouais, du coup, ça commence, le Pro D2 commence ce week-end. Et après, bah, on continue avec le top 14 qui va commencer rapido. Et le top 14 avant le début de la Coupe d'Europe. Ouais, il faudrait que je vous parle de la Coupe d'Europe un petit peu plus tard aussi, qui elle commencera. Coupe d'Europe de rugby. Eh bien, par exemple, je pourrais déjà vous tisser le truc. La Coupe d'Europe de rugby. Oh putain, c'est même pas celle-là en plus qui me met ce con. La Coupe d'Europe de rugby. Ah voilà. Ça commencera. Ah oui, j'ai les matchs de barrage, c'est pour ça en fait. T'es pas quand ça commence, hein. Ouais, bon, il va pas mettre quand ça commence ce couillol. Parce qu'il y avait les matchs de barrage, ça c'est sûr. Ouais, ça doit commencer mi-octobre, normalement, comme d'habitude, je crois, mi-octobre, début septembre, fin de novembre. Enfin, c'est avant la tournée de novembre, c'est sûr, si ma mémoire est bonne. Bah ouais, pour il me paye d'autres, ce con. Bon, moi, je peux déjà vous donner les poules, hein, attendant que je cherche. Donc, pour la première... Non, c'est peut-être les chapeaux, ça, je m'en fous, c'est les chapeaux. Non, voilà. Pour la première poule, par exemple, pour la Grande Coupe d'Europe, hein, on a les Wasps, le Stade Rochelais, Ulster et Harlequins. Pour la poule 2... Ah bah, t'es si, j'ai le calendrier match, là. Ah bah, il me prend les notes, ce con. Bon, bref. Ouais, quand il veut pas, il veut pas. Ah, mais c'est un rugby, ça y est. Alors. Pour la seconde poule, on en a Clermont, les Saracens, les Ospreys contre les Northampton Saints. Pour une fois, ils joueront pas contre Castres, les Northampton Saints. Ça va les changer. Exeter, pour la poule 3, Exeter Chief, Leinster, Montpellier et Glasgow Warriors, encore qu'il y a toujours Glasgow Warriors Montpellier. Après on a le Munster contre le Racing 92, contre les Leinster Tigers et contre le Castres Olympique. Quand je vois les matchs à Racing Castres, j'ai l'impression que c'est les mêmes équipes qui jouent contre elles, bon bref. Et Toulon, grand gagnant, aura l'équipe italienne contre lui. Ils auront aussi donc les Benetton Trevi, ils auront les Lani Scarlett et... Bath Rugby, c'est un peu une bonne équipe. Alors, je suis sur le site magnifique là, et je vais vous dire quand est-ce que ça commence ou pas. Mettez pas les. Ah non, mais supercherie quoi, il va pas dire quand ça commence. On va pas aller loin. Hein. Ouais, bon bah c'est pas grave. Hein. On dirait qu'on a rien vu. Bah, je reviendrai voilà, sur la Coupe d'Europe. Plus en longueur, je verrai quand j'y reviendrai du coup. Eh bien écoutez, ben je vous dis, je vais vous souhaiter surtout une bonne continuation. J'espère que la saison de rugby sera prometteuse, particulièrement pour le 15 de France. J'espère cette année avoir des belles victoires. La tournée d'automne risque d'être quand même assez costaud. Il y a 4 matchs. Il y a un match contre l'Afrique du Sud, un match contre le Japon, c'est sûr, et je crois 2 matchs contre la Nouvelle-Zélande. Ou je sais plus combien de matchs, mais bref, ça fait un peu beaucoup. Donc ouais, on a aussi une belle tournée d'automne. Et ça, c'est les matchs qu'on voit gratos à la télé, donc c'est pas plus mal. Donc j'y reviendrai ça un petit peu plus tard. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Et je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une excellente saison de rugby 2017-2018. Allez, au revoir.
Allez bien rigoler.